Chapitre 23. Je suis bien aise de vous voir, me dit Monsieur Pocket, et j'espère que vous n'êtes pas fâché de me voir non plus, car je ne suis pas, ajouta-t-il avec le sourire de son fils, un personnage bien effrayant. Il avait l'air assez jeune, malgré son désordre et ses cheveux très gris, et ses manières semblaient tout à fait naturelles. Je veux dire par là qu'elles étaient dépourvues de toute affectation. Il y avait quelque chose de comique dans son air distrait, qui eût été franchement burlesque s'il ne s'était aperçu lui-même qu'il était bien près de l'être. Quand il eut causé un moment avec moi, il dit, en s'adressant à Mrs. Pocket avec une contraction un peu inquiète de ses sourcils, qui étaient noirs et beaux. « Belinda, j'espère que vous avez bien reçu Monsieur Pip. » Elle regarda par-dessus son livre et répondit « Oui !» Elle me sourit alors, mais sans savoir ce qu'elle faisait, car son esprit était ailleurs, puis elle me demanda si j'aimerais à goûter un peu de fleur d'oranger. Comme cette question n'avait aucun rapport éloigné ou rapproché avec aucun sujet, passé ou futur, je considérais qu'elle avait lancé comme le premier pas qu'elle daignait faire dans la conversation générale. Je découvris en quelques heures, je puis le dire ici sans plus tarder, que Mrs. Pocket était fille unique d'un certain chevalier, mort d'une façon tout à fait accidentelle, qui s'était persuadé à lui-même que défunt son père aurait été fait baronnet sans l'opposition acharnée de quelqu'un, opposition basée sur des motifs entièrement personnels. J'ai oublié de qui, si toutefois je ne l'ai jamais su. Était-ce du souverain, du premier ministre, du chancelier, de l'archevêque de Canterbury ou de toute autre personne? Je ne sais, mais en raison de ce fait, entièrement supposé, il s'était lié avec tous les nobles de la terre. Je crois que lui-même avait été créé chevalier pour s'être rendu maître à la pointe de la plume de la grammaire anglaise dans une adresse désespérée, copiée sur velin, à l'occasion de la pose de la première pierre d'un édifice quelconque et pour avoir tendu à quelque personne royale soit la truelle, soit le mortier. Peu importe pourquoi, il avait destiné Mrs. Pocket à être élevée dès le berceau comme une personne qui, dans l'ordre des choses, devait épouser un personnage titré et de laquelle il fallait éloigner toute espèce de connaissance plébienne. On avait réussi à faire si bonne garde autour de la jeune Miss, d'après les intentions de ce père judicieux, qu'elle avait toutes sortes d'agréments acquis et brillants, mais qu'elle était du reste parfaitement incapable et inutile. Avec ce caractère si heureusement formé, dans la première fleur de jeunesse, il n'avait pas encore décidé s'il se destinerait aux grandeurs administratives ou aux grandeurs cléricales. Comme pour arriver aux unes ou aux autres, ce n'était qu'une question de temps. Lui et Mrs. Pocket avaient pris le temps par les cheveux, qui, à en juger par leur longueur, semblaient avoir besoin d'être coupés, et s'étaient mariés à l'insu d'un père judicieux. Le père judicieux, n'ayant rien à accorder ou à refuser que sa bénédiction, avait magnifiquement passé ce douaire sur leur tête après une courte résistance et avait assuré à Monsieur Pocket que sa femme était un trésor digne d'un prince. Monsieur Pocket avait installé ce trésor de prince dans les voies du monde tel qu'il est et l'on suppose qu'il n'y prit qu'un bien faible intérêt. Cependant, Mrs. Pocket était en général l'objet d'une pitié respectueuse parce qu'elle n'avait pas épousé un personnage titré, tandis que, de son côté, Monsieur Pocket était l'objet d'une espèce de reproche tacite, parce qu'il n'avait jamais su acquérir la moindre distinction honorifique. Monsieur Pocket me conduisit dans la maison et me montra ma chambre, qui était une chambre agréable et meublée de façon à ce que je pusse m'y trouver confortablement. Il frappa ensuite aux portes de deux chambres semblables et me présenta à leurs habitants, qui se nommaient Drumle et Startup. Drumle, jeune homme à l'air vieux et d'une structure lourde, était en train de siffler. Startup, plus jeune d'année et d'apparence, lisait en tenant sa tête comme s'il eût craint qu'une très forte charge de science ne la fît éclater. Monsieur et Mrs. Pocket avaient tellement l'air d'être chez les autres que je me demandais qui était réellement en possession de la maison et les laissait y vivre, jusqu'à ce que j'eusse découvert que cette grande autorité était dévolue aux domestiques. C'était peut-être une assez agréable manière de mener les choses pour s'éviter de l'embarras, mais elle paraissait coûteuse car les domestiques sentaient qu'ils se devaient à eux-mêmes de bien manger, de bien boire et de recevoir nombreuses compagnies à l'office. Ils accordaient une table très généreuse servie à Monsieur et Mrs. Pocket. Cependant, il me parut toujours que l'endroit où il était de beaucoup préférable d'avoir sa pension était la cuisine, en supposant toutefois le pensionnaire en état de se défendre, car moins d'une semaine après mon arrivée, une dame du voisinage, personnellement inconnue de la famille, écrivit pour dire qu'elle avait vu Millers battre le baby. Ceci affligea grandement Mrs. Pocket, qui fondit en larmes à la réception de cette lettre et s'écria qu'il était vraiment extraordinaire que les voisins ne pussent s'occuper de leurs affaires. J'appris peu à peu, par Harbert particulièrement, que M. Pocket avait étudié à Harrow et à Cambridge, où il s'était distingué et qu'ayant eu le bonheur d'épouser Mrs. Pocket à un âge peu avancé, il avait changé de voie et avait pris l'état de remouleur universitaire. Après avoir repassé un certain nombre de lames émoussées dont les possesseurs, lorsqu'ils étaient influents, lui promettaient toujours de l'aider dans son avancement, mais oubliaient toujours de le faire, quand une fois les lames avaient quitté la meule, il s'était fatigué de ce pauvre travail et était venu à Londres. Là, après avoir vu s'évanouir graduellement ses plus belles espérances, il avait, sous le prétexte de faire des lectures, appris à lire à diverses personnes qui n'avaient pas eu l'occasion de le faire ou qu'il avait négligé. Puis, il en avait refourbi plusieurs autres. De plus, en raison de ses connaissances littéraires, il s'était chargé de compilations et de corrections bibliographiques, et tout cela, ajouté à des ressources particulières, très modérées, avait fini par maintenir la maison sur le pied où je la voyais. Monsieur et Mrs. Pocket avaient un pernicieux voisinage. C'était une dame veuve, d'un naturel tellement sympathique, qu'elle s'accordait avec tout le monde, bénissait tout le monde et répandait des sourires ou des larmes sur tout le monde, selon les circonstances. Cette dame s'appelait Coilé, et j'eus l'honneur de lui offrir le bras pour la conduire à table le jour de mon installation. Elle me donna à entendre, en descendant l'escalier, que c'était un grand coup pour cette chère Mrs. Pocket et pour ce cher Monsieur Pocket de se voir dans la nécessité de recevoir des pensionnaires chez eux. « Ceci n'est pas pour vous, » me dit-elle dans un débordement d'affection et de confidence. Il y avait un peu moins de 5 minutes que je la connaissais. « S'ils étaient tous comme vous, ce serait tout autre chose. Mais cette chère Mrs. Pocket, » dit Mrs. Coilé après le désappointement qu'elle a éprouvé de si bonne heure. « Non qu'il faille blâmer ce cher Monsieur Pocket, a besoin de tant de luxe et d'élégance. »« Oui, madame, » dis-je pour l'arrêter, car je craignais qu'elle ne se prît à pleurer. Et elle est d'une nature si aristocratique. Oui, madame, dis-je encore dans le même but que la première fois. Que c'est dur, continua Mrs. Coilé, de voir l'attention et le temps de ce cher Monsieur Pocket détourné de cette chère Mrs. Pocket. Tandis que j'accordais toute mon attention à mon couteau, à ma fourchette, à ma cuillère, à mes verres et aux autres instruments de destruction qui se trouvaient sous ma main. Il se passa quelque chose entre Mrs. Pocket et Drumleux, qui m'apprit que Drumleux, dont le nom de baptême était Bentley, était actuellement le plus proche héritier, moins un, d'un titre de baronnet, et plus tard, je sus que le livre que j'avais vu dans le jardin entre les mains de Mrs. Pocket était un traité de blason et qu'elle connaissait la date exacte à laquelle son grand-papa aurait figuré dans le livre, s'il avait jamais dû y figurer. Drumleux parlait peu. Mais, dans ces rares moments de loquacité, il me fit l'effet d'une espèce de garçon boudeur. Il parlait comme un des élus et reconnaissait Mrs. Pocket comme femme et comme sœur. Excepté eux et Mrs. Coilié, la pernicieuse voisine, personne ne prit le moindre intérêt à cette partie de la conversation et il me sembla qu'elle était pénible pour Herbert. Elle promettait de durer encore longtemps lorsque le groom vient annoncer un malheur domestique. En effet, la cuisinière avait manqué son rôti. À mon indicible surprise, je vis alors pour la première fois Monsieur Pocket se livrer, pour soulager son esprit, à une démonstration qui me sembla fort extraordinaire, mais qui ne parut faire aucune impression sur les autres convives, et avec laquelle je me familiarisai bientôt comme tout le monde. Étant en train de découper, il posa sur la table son couteau et sa fourchette, passa ses deux mains dans ses cheveux, en désordre, et parut faire un violent effort pour se soulever avec leur aide. Après cela, voyant qu'il ne soulevait pas sa tête d'une ligne, il continua tranquillement ce qu'il était en train de faire. Ensuite, Mrs. Coilé changea de sujet et commença à me faire des compliments. Cela me plut pendant quelques instants, mais elle me flatta si brutalement que le plaisir ne dura pas longtemps. Elle avait une manière serpentine de s'approcher de moi lorsqu'elle prétendait s'intéresser sérieusement aux localités et aux amis que j'avais quittés, qui ressemblaient à celles de la vipère à langue fourchue, et quand, par hasard, elle s'adressait à Startop, lequel lui parlait fort peu, ou à Drumleux, qui lui parlait moins encore, je les enviais d'être à l'autre bout de la table. Après dîner, on amena les enfants, et Mrs. Qualley se livra aux commentaires les plus flatteurs sur leurs yeux, leur nez ou leurs jambes. C'était un moyen bien trouvé pour former leur esprit. Il y avait 4 petites filles et 2 petits garçons, sans compter le baby, qui était l'un ou l'autre et le prochain successeur du baby, qui n'était encore ni l'un ni l'autre. Ils furent introduits par Flopson et Millers, comme si ces 2 sous-officiers avaient été envoyés pour recruter des enfants et avaient enrôlé ceux-ci. Mrs. Pocket regardait ces jeunes bambins, qui auraient dû être nobles, comme si elle avait déjà eu le plaisir de les voir quelque part, mais ne sachant pas au juste ce qu'elle voulait en faire.
« Donnez-moi votre fourchette, madame, et prenez le baby, » dit Flopson. « Ne le prenez pas de cette manière, vous allez lui mettre la tête sous la table. »
Ainsi prévenue, Mrs. Pocket prit le baby dans l'autre sens et lui mit la tête sur la table, ce qui fut annoncé à tous ceux qui étaient présents par une affreuse secousse.
« mon Dieu, rendez-le-moi, madame, » dit Flopson. « Miss Jane, venez danser devant le baby. Oh, venez, venez. »
Une des petites filles, une simple fourmi, qui semblait avoir prématurément pris sur elle de s'occuper des autres, quitta sa place près de moi et se mit à danser devant le baby, jusqu'à ce qu'il cessât de crier et se mit à rire. Alors tous les enfants éclatèrent de rire, et M. Pocket, qui pendant tout le temps avait essayé à 2 reprises différentes de se soulever par les cheveux, se prit à rire également, et nous rîmes tous pour manifester notre grande satisfaction. Flopson, à force de secouer le baby et de faire mouvoir ses articulations comme celles d'une poupée d'Allemagne, parvint à le déposer, sain et sauf, dans le giron de Mrs. Pocket, et lui donna le casse-noisette pour s'amuser, recommandant en même temps à Mrs. Pocket de bien faire attention que les branches de cet instrument n'étaient pas de nature à vivre en parfait accord avec les yeux de l'enfant, et chargea sévèrement Miss Jane d'y veiller. Les 2 bonnes quittèrent ensuite l'appartement et se disputèrent vivement sur l'escalier avec un groom débauché qui avait servi à table et qui avait perdu au jeu la moitié des boutons de sa veste. Je me sentis l'esprit très mal à l'aise quand je vis Mrs. Pocket, tout en mangeant des quartiers d'orange trempés dans un vin sucré, entamer une discussion avec Drumleux à propos de 2 baronnies, oubliant tout à fait le baby qui, sur ses genoux, exécutait des choses vraiment effroyables avec le casse-noisette. À la fin, la petite Jane, voyant le jeune cerveau de son petit frère en danger, quitta doucement sa place et, employant une foule de petits artifices, elle parvint à éloigner l'arme dangereuse. Mrs. Pocket finissait au même instant son orange, et n'approuvant pas cela, elle dit à Jane.
« Oh, vilain enfant, comment oses-tu? Va t'asseoir de suite !»«
Chère maman, » balbutia la petite fille, « le baby pouvait se crever les yeux. »
« Comment oses-tu me répondre ainsi ? » reprit Mrs. Pocket. « Va te remettre sur ta chaise à l'instant. »
La dignité de Mrs. Pocket était si écrasante que je me sentais tout embarrassée, comme si j'avais fait moi-même quelque chose pour la mettre en colère.
« Belinda !» reprit Monsieur Pocket, de l'autre bout de la table. « Comment peux-tu être aussi si déraisonnable ? Jane ne l'a fait que pour empêcher le baby de se blesser. »
« Je ne permets à personne de se mêler du baby, » dit Mrs. Pocket. « Je suis surprise, Mathieu, que vous m'exposiez un pareil affront. »«
Bon Dieu !» s'écria Monsieur Pocket poussé à bout. « Doit-on laisser les enfants se tuer à coups de casse-noisette sans essayer de les sauver ?»«
Je ne veux pas que Jane se mêle du baby, »
dit Mrs. Pocket avec un regard majestueux à l'adresse de l'innocente petite coupable.
« Je connais, j'espère, la position de mon grand-papa. En vérité, Jane !»
Monsieur Pocket mit encore ses mains dans ses cheveux, et, cette fois, il se souleva réellement à quelques pouces de sa chaise.
« Écoutez ceci » s'écria-t-il en s'adressant aux éléments, ne sachant plus à qui demander secours. « Faut-il que les babies des pauvres gens se tuent à coups de casse-noisette à cause de la position de leur grand-papa ?»
Puis il se souleva encore et garda le silence. Nous tenions tous les yeux fixés sur la nappe, avec embarras, pendant que tout cela se passait. Une pause s'ensuivit, pendant laquelle l'honnête baby, qu'on ne pouvait pas maintenir en repos,
se livra à une série de sauts et de mouvements pour aller avec la petite Jane, qui me parut le seul membre de la famille, hors les domestiques, avec lequel il eut envie de se mettre en rapport.
« Monsieur Drumle, dit Mrs. Pocket, « voulez-vous sonner Flopson ? Jane, désobéissante petite créature, va te coucher. Et toi, baby chérie, viens avec maman. »
Le baby avait un noble cœur, et il protesta de toutes ses forces. Il se plia en deux et se jeta en arrière par-dessus le bras de Mrs. Pocket, puis il exhiba à la compagnie une paire de bas tricotés et de jambes à fossettes au lieu de sa douce figure. Finalement, on l'emporta dans un accès de mutinerie terrible. Après tout, il finit par gagner la partie, car quelques minutes après, je le vis à travers la fenêtre dans les bras de la petite Jane. On laissa les cinq autres enfants seuls à table, parce que Flopson avait une occupation secrète qui ne regardait personne, et je pus alors me rendre compte des relations qui existaient entre eux et Monsieur Pocket. On le verra par ce qui va suivre. Monsieur Pocket, avec l'embarras naturel à son visage échauffé et à ses cheveux en désordre, les regarda pendant quelques minutes, comme s'il ne se rendait pas bien compte comment ils couchaient et mangeaient dans l'établissement et pourquoi la nature ne les avait pas logés chez une autre personne, puis, d'une manière détournée et jésuitique, il leur fit certaines questions.
« Pourquoi le petit Joe a-t-il ce trou à son devant de chemise ?»
Celui-ci répondit.
« Papa, Flopson devait le raccommoder quand elle aurait le temps. »«
Comment la petite Fanny a-t-elle ce panari ?»
Celle-ci répondit.
« Papa, Miller allait lui mettre un cataplasme quand elle a oublié. »
Puis il se laissa aller à sa tendresse paternelle, leur donna à chacun un shilling et leur dit d'aller jouer. Dès qu'ils furent sortis, il fit un effort violent pour se soulever par les cheveux et ne plus penser à ce malencontreux sujet. Dans la soirée, on fit une partie sur l'eau. Comme Drumle et Startop avaient chacun un bateau, je résolus d'avoir aussi le mien et de les battre tous les deux. J'étais assez fort dans la plupart des exercices en usage chez les jeunes gens de la campagne, mais, comme je sentais que je n'avais pas assez d'élégance et de genre pour la Tamise, pour ne rien dire des autres rivières, je résolus de me déplacer de suite sous la direction d'un homme qui avait remporté le prix aux dernières régates et à qui mes nouveaux amis m'avaient présenté quelque temps auparavant. Cette autorité pratique me rendit tout confus en disant que j'avais un bras de forgeron. S'il avait su combien son compliment avait été près de lui faire perdre son élève, je doute qu'il l'eût fait. Un bon souper nous attendait à la maison, et je pense que nous nous serions tous bien amusés, sans une circonstance des plus désagréables. Monsieur Pocket était de bonne humeur quand une servante entra et lui dit
« Monsieur, je voudrais vous parler, s'il vous plaît. »
« Parlez à votre maître ?» dit Mrs. Pocket, dont la dignité se révolta encore. « Comment y pensez-vous ? Allez parler à Flopson ou parlez-moi à un autre moment. »
« Je vous demande pardon, madame, » repartit la servante. « Je désire parler tout de suite et parler à mon maître. »
Là-dessus, Monsieur Pocket sortit de la salle, et jusqu'à son retour, nous fîmes de notre mieux pour prendre patience.
« Voilà quelque chose de joli, Belinda !»
dit Monsieur Pocket en revenant avec une expression de chagrin et même de désespoir sur le visage.
« Voilà la cuisinière qui a étendu ivre morte sur le plancher de la cuisine et qui a mis dans l'armoire un énorme morceau de beurre frais, tout prêt à être vendu comme graisse. »
Mrs. Pocket montra aussitôt une aimable émotion et dit
« C'est encore cette odieuse Sophie !»«
Que veux-tu dire, Belinda ?» demanda Monsieur Pocket.
« Oui, c'est Sophie qui vous l'a dit !» fit Mrs. Pocket. « Ne l'ai-je pas vue de mes yeux et entendue de mes oreilles revenir tout à l'heure ici et demander à vous parler ?»«
Mais ne m'a-t-elle pas emmenée en bas, Belinda ?» répondit Monsieur Pocket. « Montrez la situation dans laquelle se trouvait la cuisinière et jusqu'au paquet de beurre. »«
Et vous la défendez, Mathieu ?» dit Mrs. Pocket. « Quand elle fait mal ?»
Monsieur Pocket fit entendre un grognement terrible.
« Suis-je la petite fille de grand-papa pour n'être rien dans la maison ?» dit Mrs. Pocket. « Sans compter que la cuisinière a toujours été une très bonne et très respectable femme qui a dit, en venant s'offrir ici, qu'elle sentait que j'étais née pour être duchesse. »
Il y avait un sofa près duquel se trouvait Monsieur Pocket. Il se laissa tomber dessus, dans l'attitude du gladiateur mourant. Sans abandonner cette posture, il dit d'une voix creuse.
« Bonsoir, monsieur Pip. »
Alors je pensais qu'il était temps de le quitter pour m'en aller coucher.